merci d'être en direct avec nous. Des températures anormalement douces et deux semaines de congé plutôt qu'une. Ce sont là les ingrédients parfaits pour assister au retour des touristes à Bruxelles, Philippe Claus.
Alors pour le touriste, oui. Pour le climat, évidemment, cette température inquiète. Il faut quand même un petit peu être réaliste aussi. Je pense que tout être normalement constitué ne trouve pas normal qu'on soit en t-shirt le 31 octobre. Mais c'est vrai que la capitale a beaucoup de succès. On voit de plus en plus d'habitants revenir vivre en ville. En 20 ans, c'est 200 000 habitants en plus en région bruxelloise. Et c'est vrai qu'au niveau touristique, on a eu beaucoup, beaucoup de monde puisqu'on est quasi revenu aux chiffres de 2019, juste avant la pandémie. Donc c'est vrai que la capitale de la Belgique a la cote.
Vous pouvez déjà chiffrer en fait l'effet deux semaines.
L'effet deux semaines, non, parce qu'il concerne principalement la Belgique, évidemment la Belgique francophone, puisque ce n'est que la moitié de notre pays. Mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que ce soit nos musées, nos attractions, oui, il y a eu beaucoup de monde. Les Belges ont aussi choisi de rester en Belgique. C'est important, je pense que la crise énergétique n'y est pas non plus étrangère. Le fait de pouvoir raccourcir les distances et de rester aussi dans la destination est important. Et c'est vrai qu'on a un panel de choses à offrir pour que les Belges redécouvrent leur capitale.
Mais 72% d'occupation, c'est vrai que c'est quasiment le niveau de 2019, donc presque un retour à la normale, mais on n'y est pas encore.
Non, y a toujours un défi, mais on voit bien qu'on a une croissance aussi. On a de plus en plus de chambres d'hôtel. Et je rappelle pourquoi c'est si important, parce qu'on ne veut pas une ville où le tourisme se développe contre ses habitants. C'est vraiment les deux. On a à la fois un retour d'habitants et plus de touristes, mais on a beaucoup plus de chambres d'hôtel qui se construisent aussi. Et le tourisme à Bruxelles, c'est près de 35 000 emplois, qui est de l'emploi évidemment peu délocalisable, qui bénéficie d'abord aux Bruxellois, mais aussi à l'ensemble des Belges qui viennent travailler dans notre capitale.
Qu'est-ce qui attire aujourd'hui et qu'est-ce qui fait fuir dans la capitale?
Alors, ce qui attire certainement, c'est d'abord la ville historique. C'est le fait qu'on est une ville moyenâgeuse avec des monuments absolument remarquables, dont la Grand Place, évidemment, le joyau, mais aussi le fait que nous sommes la capitale de 500 millions d'Européens. On est une ville connue dans le monde entier. On est dans les médias tous les jours quasiment, avec des grands sommets européens qui se passent chez nous. Et donc les gens ont envie de découvrir ce lieu où s'exerce le pouvoir, où s'exercent les décisions qui influencent des centaines de millions de personnes. Donc c'est vraiment cette identité bruxelloise qui est multiculturelle aussi, le fait que nous sommes la deuxième ville la plus multiculturelle du monde, avec 184 nationalités, on parle 104 langues à Bruxelles, ça attire évidemment le fait d'avoir ce bouillonnement culturel au sein de notre capitale.
Mais qu'est-ce qui fait fuir? Quels sont les points noirs?
Ce que nous devons continuer à travailler objectivement, c'est cet équilibre par rapport à nos habitants. Si on prend la problématique du logement, par exemple, qui est extrêmement importante, il ne faudrait pas que l'on bascule dans ce qu'on a pu rencontrer dans des villes comme Barcelone ou Amsterdam, où à un moment donné, se loger pour les habitants devient impossible parce qu'on voit l'explosion de plateformes comme Airbnb ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose sur laquelle la région bruxelloise et la ville, on a été extrêmement vigilants en prenant des mesures strictes pour que ça soit continue à être une ville habiter et pas juste une ville de visiteurs.
Il y aura une patinoire, un marché de Noël, malgré des factures d'énergie impayables.
Mais en fait, ça fait des années qu'on réduit ces factures sur les plaisirs d'hiver. Ce grand marché de Noël qui attire plus de 2 millions de visiteurs. On a travaillé sur le LED depuis plus de 10 ans. Notre patinoire, vous vous rendez compte, on l'a couverte depuis de nombreuses années. La facture énergétique d'un mois de patinoire, c'est 7500 euros. Et donc, c'est une balance qu'on doit tenir en compte entre l'intérêt, évidemment, de continuer à faire des fêtes de Noël, c'est aussi important pour le moral des Belges, et de tenir compte de ce qui se passe au niveau énergétique. C'est ce que nous arrivons à faire dans le grand défi que sont les plaisirs d'hiver. Mais je le répète, nous le faisons depuis des années, ce qui nous a permis vraiment d'anticiper cette crise énergétique.
En revanche, il n'y aura pas de grand écran pour le foot. C'est votre manière de boycotter la Coupe du Monde au Qatar ?
C'est vrai que les bourgmestres bruxellois ont décidé de ne pas mettre de grand écran. C'est vrai que d'abord, cette Coupe du Monde en hiver, enfin, tout semble fonctionner à l'envers sur cette Coupe du Monde. Donc voilà, c'est un acte symbolique. Mais moi, je veux y voir aussi des actions positives, comme ce que l'on fait pour les femmes iraniennes pour l'instant sur l'ensemble des écrans publicitaires que nous utilisons, comme la grande bâche que l'on a mis sur les musées royaux des Beaux-Arts pour sensibiliser aux actions positives. Vous savez, la Coupe du Monde au Qatar, pour l'instant, en effet, elle fait couler beaucoup d'encre, mais elle doit nous permettre aussi de nous remettre en question sur la façon dont nous appréhendons ce genre de grands événements qui sont importants pour les destinations, qui sont importants pour le... Moi, je suis un grand supporter de foot, mais ici, c'est vrai qu'on semble avoir franchi une limite.
Alors, si le tourisme de loisirs se porte bien, pour les voyages d'affaires, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui coince ?
Mais on a la chance d'être capitale européenne, évidemment, d'avoir aussi le siège de l'OTAN, d'avoir plus de 1500 organisations internationales sur notre territoire, mais il nous manque des grandes infrastructures, raison pour laquelle on travaille sur ce grand projet qui est le projet NEO, sur le redéveloppement du plateau du Hesel. Le plateau du Hesel, vous savez, c'est là que se trouve Bruxelles Expo. Eh bien, il faut rénover l'ensemble de ces palais. Il faut se rendre compte que un tourisme de loisir dépense environ 150 euros dans sa destination, quand un tourisme congressiste en dépense 400. Donc c'est une retombée économique extrêmement importante. Et je le dis aussi, nous sommes la première ville universitaire du pays avec plus de 100 000 étudiants dans le supérieur, mais aussi énormément de chercheurs. C'est à travers tous les congrès, et pas seulement les congrès médicaux, que l'on peut aussi positionner Bruxelles comme une ville de connaissances, une ville, comme je l'ai dit, multiculturelle, mais aussi une ville où on étudie, où on recherche. Et les congrès peuvent soutenir ça, à la fois l'économie, mais aussi le positionnement de Bruxelles dans le monde.
Mais pratiquement, ça reste très compliqué au niveau financier par rapport à ce projet. La région vient de postposer sa quote-part de 8 millions d'euros. Un partenaire privé a laissé tomber. Si on ajoute encore quelques tracasseries urbanistiques, vous y croyez vraiment toujours ?
Ah oui, mon boulot, c'est toujours d'y croire. Vous savez, les différents projets, quand on les fait à Bruxelles, au début, il y a toujours beaucoup de gens pour vous expliquer pourquoi ça ne se fera pas. Moi, je préfère être du côté des gens qui font tout pour que ça se fasse. Et vous savez, le tourisme, il y a 20 ans, c'était une anecdote économique à Bruxelles. Quand je suis devenu échevin du tourisme, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas référencé. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît l'impact que ça a. Et donc, le projet de Yo, il se fera. On a des partenaires privés extrêmement solides. Et je pense en effet que la région bruxelloise ne va pas abandonner le projet. En tout cas, la ville, clairement, est derrière ce projet. Parce qu'il est essentiel pour le côté social de Bruxelles, les nombreux emplois qui y en dépendent, mais aussi son côté économique et l'ensemble de la rénovation de Bruxelles Expo, qui reste l'endroit où se passent les grandes manifestations en Belgique.
Autre sujet, le plan Good Move. Il a été lancé fin de l'été, ce nouveau plan de circulation pour que Bruxelles respire. Pas de regrets, vu le tollé que ça suscite.
Non, c'est un plan difficile, donc on le sait, mais aujourd'hui, je le répète, être en t-shirt le 31 octobre à Bruxelles, ça n'est pas possible non plus. Donc ce qu'on veut, c'est, si vous devez prendre votre voiture, pas de problème, vous la prenez, il y a 12 000 places de parking dans le centre. Mais on vous demande de réfléchir à votre mode de déplacement. On a énormément investi dans les transports en commun à Bruxelles, c'est le premier budget de la région bruxelloise. On a continué à refaire les espaces publics, je vous le dis, on a de plus en plus d'habitants, c'est quand même que notre formule a du succès, sinon les gens ne viendraient pas habiter en ville. Et donc, on doit regagner de l'espace public. Et vous savez, il n'y a pas plus immobile qu'une voiture. C'est 95% du temps, ça ne bouge pas. Par contre, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Vous savez, moi, je ne serais jamais un bourgmestre qui serait contre les nafteurs. Une capitale a besoin de ces nafteurs qui viennent travailler. Mais il faut continuer à développer le train, le tram, le vélo, la marche à pied. Il faut trouver un équilibre. Et il faut aussi que nos villes respirent. C'est important. Si on a plus d'habitants, il faut leur donner plus de respiration et plus d'espace public. Mais c'est un dossier compliqué, raison pour laquelle je concerte énormément. On passe notre temps à discuter avec beaucoup d'associations, beaucoup de riverains. C'est un dialogue qui est parfois complexe, mais il faut tenir bon.
Oui, vous dites on consulte, mais est-ce que la population a suffisamment été consultée dès le départ, hein? Votre collègue socialiste Ahmed Laouech dit on ne peut pas enfermer les gens dans les quartiers sans offrir des alternatives.
Non, mais vous savez, moi je connais tous ces plans de mobilité. J'ai développé le piétonnier qui a été critiqué énormément et qui est aujourd'hui un succès. On en a parlé sur notre chaîne Vivacité juste à 7h30 avec les nouveaux projets immobiliers qui s'y développent. Le tram à Neder-Overenbe qui est au nord de Bruxelles, de décloisonner ce quartier, fait aussi beaucoup de parler de lui, mais je suis convaincu que le transport en commun est une vraie alternative. On a le bois de la Cambre. Quand j'ai décidé de rendre le bois de la Cambre à ses usagers qui ne soient pas que la voiture, ça a fait aussi polémique, je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne voudrait rouvrir tout le bois. Même les plus défenseurs absolus de la voiture comprennent que rouvrir tout le bois à la voiture serait une hérésie. Chaque fois qu'il y a des plans de mobilité, c'est compliqué. Mais en même temps, c'est le boulot du politique d'aussi avoir une vision, d'aussi proposer quelque chose à ses citoyens. Et puis, vous savez, il y a un grand rendez-vous qui est les élections communales. C'est des élections dans lesquelles les citoyens s'investissent. Et là, il faut que chaque parti sorte du bois et dise ce qu'il veut comme projet de ville. En tout cas, à la ville de Bruxelles, on a affirmé notre projet, qui est un projet d'équilibre entre une ville, en effet, avec une dynamique économique importante. On vient d'en parler, mais aussi une ville dans laquelle les habitants ont envie de vivre.
Mais on voit quand même ici que plusieurs communes font marche arrière. Elles ont tort ?
Non, il y a des réalités évidemment qui sont un peu partout. Nous, c'est vrai que ça fait des mois et des mois qu'on concerte et on continue à concerter. J'ai encore eu hier des coups de fil d'associations, des gens qui ont peur, des gens qui ne sont pas contents. Il faut entendre ces commerçants quand ils ont peur. Mais en même temps, vous l'avez dit dans votre reportage avant, on n'a jamais eu autant de monde, en tout cas depuis 2019, en ville. Donc on a beaucoup de gens qui reviennent en ville. Donc beaucoup d'habitants, beaucoup de touristes, ça sont des signaux extrêmement positifs. Je prenais l'exemple du piétonnier qui a fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît, les analystes, que c'est plutôt un succès, c'était plutôt ce qu'il fallait faire. Mais ça a été difficile. Mais ici, il faut entendre la population, il faut entendre ses angoisses. Et le boulot des hommes et des femmes politiques, c'est aussi de rassurer les gens et de leur expliquer vers où on va et parfois d'améliorer ou de corriger certaines erreurs.
Un dernier mot rapidement sur la crise d'accueil. Des familles, des enfants sont contraints de dormir dans la rue, surtout sur les trottoirs de Bruxelles. Est-ce tolérable ?
C'est inacceptable et je veux dire que les gens ne comprennent pas comment on ne mobilise pas des lieux. Nous avons proposé des hôpitaux, des homes, des lieux pour cela. Ce qui manque aujourd'hui, c'est du personnel à FEDASIL. Ça n'est quand même pas chinois au niveau fédéral de recruter 200 personnes. C'est de ça qu'on parle. Il n'est plus admissible. J'espère vraiment que d'ici la semaine prochaine, des mesures fortes seront prises parce que je ne tolérerai pas que ça dure encore une semaine de plus. Le gouvernement fédéral a décidé d'engager 200 personnes, que les ministres en charge les recrutent. Je répète, tous les bourgmestres bruxellois ont mobilisé des lieux, ont mobilisé des places par rapport à ça. Il faut maintenant les personnes d'encadrement, qu'on nous utilise, qu'on prenne un peu les choses, parce que je comprends la révolte des citoyens qui ne comprennent pas que des familles dorment dehors alors que les températures vont encore tomber. Ça n'est pas admissible, et je le répète, les bourgmestres bruxellois prennent leurs responsabilités. Il y a de nombreux lieux qui sont proposés à FEDASIL, à eux de les occuper maintenant.
Mais votre parti est à la région et au fédéral, vous ne pouvez pas compter dessus sur ces relais pour débloquer la situation?
Je peux vous dire que sans Ludivine de Donder comme ministre de la Défense, il n'y aurait pas les 7000 places qu'elle a trouvées. Sans Karine Lallieu qui travaille avec les CPS, ça n'aurait pas été possible. Et sans Pierre-Yves Dermain qui rappelle à Mme Demort qu'elle a depuis juin l'autorisation d'engager 200 personnes à FEDASIL. Je le dis à Mme Demort et Mme de Sutter, c'est que ça fait 4 mois pour engager 200 personnes. Si vous engagez ces 200 personnes, personne ne dort dehors. Allez, 4 mois pour engager des personnes quand on connaît les chiffres. Moi, je veux bien me mobiliser avec eux, ouvrir un palais pour faire un salé de recrutement, mais il faut ouvrir ces centres. Ils sont proposés par les bourgmestres, c'est des centaines de places qui sont disponibles, qui sont pour l'instant pas occupées. Ça n'est pas admissible. Merci.